pour rentrer dans l'importance du combat spirituel tel que la jeune et ensuite la moins jeune Marie de Louis Martigny, la mère Marie de Jésus, l'a pensé dans son monastère de la Serviane, je voudrais commenter avec vous aujourd'hui une lettre qu'elle a écrite aux sœurs novices. Donc ici, il y a des sœurs novices, et à la Serviane, il y a eu, durant les années passées, en ce moment il n'y en a plus, mais il y a eu des sœurs novices quand j'étais plus jeune prêtre. Et il est très important de comprendre qu'à travers ce que la mère Marie de Jésus de Louis Martigny dit aux novices, de comprendre qu'elle s'adresse aussi à la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, c'est-à-dire à chacune et à chacun d'entre nous, et au futur. Donc c'est le texte que vous avez. Vous avez pris la feuille avec le texte ? Alors prenez-la à l'intérieur, vous avez la lettre que je vais vous lire, et après je vais vous la commenter. C'est l'intercalaire que vous avez à l'intérieur, la feuille intercalaire que vous avez à l'intérieur. Parfait. Courage. Jésus est content de votre bonne volonté. Pour nous, soyons contentes de lui, parce qu'il est souverainement parfait et aimable. Et soyons mécontents de nous, parce que nous ne sommes que néant et misère. Nous faisons ce que nous pouvons et encore avec mille imperfections, et ce que nous pouvons n'est rien. Heureusement, le cœur miséricordieux de Jésus regarde non tant à nos actes qu'à nos intentions et au fond de notre volonté, que sa grâce maintient unie à lui. Plus l'union grandit, plus nos misères nous sont dévoilées, nous sommes ténèbres, et plus nous approchons de Jésus qui est la vraie lumière, plus nous voyons clairement nos plaies et nos innombrables imperfections. Plus l'union à la sainteté deviendra étroite, plus le contraste avec notre immense misère, avec notre néant pécheur, nous apparaîtra grand. Mais si nous sommes humbles, Jésus couvrira tout du manteau de son sang, de ses mérites, de ses miséricordes, et un jour au ciel, du manteau de sa gloire. Confiance, un peu de sacrifice, une éternité de bonheur, un peu d'union douloureuse à Jésus victime, une éternité d'union ineffable à Jésus glorieux et triomphant. C'est pour nous qu'il a souffert. Oserions-nous l'aimer et ne pas vouloir de ses souffrances? Voudrions-nous le suivre à la joie sans l'avoir suivi à la douleur? L'amour ne pourrait suffire un pareil choix. Et puis, l'amour qui veut l'union ne peut supporter les obstacles. Ces obstacles sont le misérable moi, la nature, l'amour propre, l'esprit propre, etc. Sacrifions tout, détruisons tout, écartons tout ce qui gêne l'union intime de nos âmes avec Jésus. Il en coûte, mais il en coûte encore plus de sentir un mur entre le bien-aimé et nos pauvres âmes, plus rien que Jésus. Qu'il vous fasse cette grâce, demandez-la pour moi. Amour à notre Mère du Ciel, portez-lui mon cœur et dites-lui combien je l'aime. Menez mon âme partout avec la vôtre. Or, ce texte que la Mère Marie de Jésus écrit aux jeunes novices du monastère de la Serviane est pour nous très intéressant. Et nous sentons le combat spirituel qui, selon Saint Jean Cassien, dans les institutions cénobitiques qu'il a écrites pour le premier monastère qui a existé dans le sud de la France à Saint-Victor, à Marseille, où je suis le curé, du coup, nous fait valoir. En effet, Saint Jean Cassien nous dit que toute la vie spirituelle consiste en un combat
contre les 7 péchés capitaux. Et il développe, du coup, ces 7 péchés capitaux. Dans les instructions cénobitiques, saint Jean Cassien n'emploie pas le terme de péché capital. Il emploie le terme de vice. Il dit le moine, la moniale, le religieux, la religieuse, le prêtre, le baptisé doit combattre les 7 vices. Et à travers ce qu'écrit la mère Marie de Jésus, nous comprenons que en sous-main, il y a ce combat contre les 7 vices, comme on va le voir. Les 7 péchés capitaux que vous connaissez par cœur. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous interroger. L'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, l'orgueil, la luxure et le dernier qu'on nomme dans la liste du catéchisme catholique, la paresse, n'est pas cité par saint Jean Cassien. Il emploie un autre terme que les religieuses et moi-même connaissons bien, c'est l'ascédie. L'ascédie. Et l'ascédie, ce n'est pas la paresse. L'ascédie, c'est le dégoût des choses de Dieu. Le dégoût des choses sacrées. Le dégoût, la non-envie des choses de Dieu. Vous voyez ? Oh, aller à la messe, oh, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai plein d'autres choses à faire, aller se confesser, oh là là, je vais raconter encore les mêmes péchés que d'habitude. Vous savez, ce dégoût, à quoi bon, à quoi bon. Et ça, dit saint Jean Cassien, il le met à la fin parce qu'il dit que c'est le plus grave et le plus important. Donc, rappelez-vous, ce n'est pas la paresse le plus grave, c'est justement ce dégoût des affaires de Dieu. Et le contraire, la vertu de ce vice, c'est le zèle. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des zélatrices zélées comme la sœur Marie-Marguerite. Parce que du coup, ça permet de vivre et d'alimenter notre relation à Dieu et notre attachement au Sacré-Cœur de Jésus, comme la première garde d'honneur nous l'a manifesté. La très sainte Vierge Marie, saint Jean et sainte Marie-Madeleine. Alors ce texte, il est fait de 4 parties. Donc mettez vos lunettes, comme moi. Je vous lis la première partie. Ça va jusqu'à heureusement. Courage ! Jésus est content de votre bonne volonté. Pour nous, soyons contentes de lui parce qu'il est souverainement parfait et aimable, et soyons mécontents de nous parce que nous ne sommes que néant et misère. Nous faisons ce que nous pouvons et encore avec 1000 imperfections, et ce que nous pouvons n'est rien. Donc ça, vous prenez votre stylo et vous marquez première partie, grand 1. Voyez, on travaille ici, hein. Pas venu pour vous amuser. Allez, un peu de zèle, un peu de zèle. Soyez zélés un peu. Et là, nous avons deux récits évangéliques que vous connaissez et qui, justement, vont mettre en valeur cette première partie dans le combat spirituel que nous avons à mener. Le premier récit que vous connaissez, c'est l'histoire du jeune homme riche. Nous trouvons ça dans l'évangile de saint Marc, chapitre 10, verset 17. Marc 10, 17. Il se mettait en route, Jésus, quand un homme accourut et s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. Maître, lui dit-il, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima, et il lui dit, une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Vous voyez, cet homme, ce jeune homme riche, il est content de Jésus, comme le dit la bienheureuse Marie de Jésus. Il est convaincu qu'il est souverainement parfait, comme elle le dit. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas mécontent de lui. Le problème, c'est qu'il est convaincu que non seulement il a la bonne volonté, au point d'aller jusqu'à Jésus, ça veut dire qu'il a la bonne volonté, puisqu'il va jusqu'à Jésus. Personne ne l'oblige. Il a la bonne volonté de rencontrer Jésus. Il a la bonne volonté de s'approcher de Jésus. Mais il n'est pas mécontent de lui. Donc ce n'est pas suffisant d'avoir la bonne volonté. C'est pour cela que le combat spirituel, c'est le combat contre les 7 vices. Parce que si on combat un vice et qui fait qu'on a la bonne volonté de Dieu, mais qu'à côté il y a les 6 de vices, ça ne sert à rien. C'est pour cela que la bienheureuse Marie de Jésus, elle nous dit, d'un côté, il y a la bonne volonté qui est nécessaire. Sinon, on ne fait rien. On ne s'approche pas de Jésus. Mais en plus, on est mécontent de nous. Parce qu'on est convaincu que quoi qu'on fasse, ce n'est pas parfait. Et que sans rien, sans lui, eh bien, on ne peut rien. Or, lui, il est convaincu que non. Parce que s'il a cette richesse, c'est qu'il a bien placé son argent, c'est qu'il a travaillé, du coup, il mérite salaire, que du coup, il a pu gagner davantage l'argent, il peut préparer sa retraite, il peut s'acheter une maison, il peut envisager des projets. Et Jésus, dans tout cela, qu'est-ce qu'il devient? Et c'est pour ça que Jésus lui dit, tu sais, tu combats peut-être un vice, 2 vices, 3 vices, 4 vices, 5 vices, 6 vices, mais il y a le 7e que tu ne combats pas. Ou c'est tout, ou c'est rien. D'où la vertu de zèle. Et en contrepartie, nous avons l'exemple que vous connaissez, qui est l'histoire de Zachée. Vous connaissez Zachée, qui justement, c'est le contre-exemple du jeune homme riche. Et cette fois, nous sommes dans l'évangile de Saint-Luc, si je le trouve. J'avais bien préparé. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Nous sommes dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 19. 19, verset 1. Si vous ne marquez pas, vous ne retrouverez pas les références. Ah ben, il faut prendre un stylo. Vous voulez mon stylo ? Alors, écoutez bien. Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. Il parcourut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient « Ah, il est allé loger chez un homme pécheur !» Mais Zachée, debout, dit au Seigneur « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc vous voyez, là, nous retrouvons, comme avec le jeune homme riche, la bonne volonté. La bonne volonté. Mais non seulement nous retrouvons, comme l'autre exemple, la bonne volonté, mais nous retrouvons ce que dit la mère Marie de Jésus, le fait que, convaincu comme l'autre aussi, que Jésus est souverainement parfait et aimable, il est mécontent de lui. Il sait que sa richesse n'est pas bonne. Il sait que sa richesse n'est pas ce qui va le mener au ciel. Et donc, vous avez vu, l'autre s'en va tout triste, donc vous imaginez la mine décomposée, partant lentement. Lui, vite, dit le texte, dit Saint-Luc, vite, il descend de l'arbre, vite, il attire Jésus chez lui. Et vous avez vu, alors que Jésus assis, Saint-Luc nous dit, lui, il reste debout, debout devant Jésus. Il dit pas, Jésus, t'es mon ami, t'es mon pote, viens, on va se boire une bière, pas du tout. Il garde l'attitude du disciple qui sert le maître. Et là, vous l'avez entendu, tout ce que nous faisons est plein d'imperfections et nous ne pouvons rien sans lui. Et le fait qu'il fasse rentrer Jésus dans sa vie le convertit, et vous l'avez entendu, il va rendre tout ce qu'il a extorqué, et s'il a fait du mal à quelqu'un, il rendra 4 fois plus. Parce que il est mécontent de lui. Il est mécontent de lui. Alors que moi, tous les chrétiens que je rencontre, passent leur temps à être mécontents de leurs voisins, de leurs voisines, ils ne sont jamais mécontents d'eux-mêmes. Eux, tout va bien, et c'est chez les autres que ça va mal. Il y en a même qui se confessent en disant que s'ils font des péchés, c'est à cause des autres. Mais ce n'est pas ce à quoi est appelé le membre de la garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, il a pris sur lui nos péchés. Donc pour qu'il prenne mes péchés, il faut que moi, je reconnaisse mes péchés. Mais mes péchés, ce n'est pas la faute des uns et des autres, du voisin, de la voisine, du pape, du cardinal de Marseille, ou de mon vicaire, ou de mes paroissiens. C'est trop facile de dire, c'est la faute des autres. Zachée ne dit pas, c'est la faute des autres. Il dit, c'est ma faute à moi. Alors que l'autre, le jeune homme riche, lui, il s'en va parce que il préfère sa situation aisée. Donc ça, c'est le premier point, le premier combat auquel la mère Marie de Jésus de Louis-Martigny nous invite, mes chers amis, c'est le fait d'avoir la bonne volonté d'aller vers Jésus et de reconnaître que je suis pas bien et que je suis mécontent de moi-même. C'est bon ? Deuxième partie, je lis. Heureusement, vous voyez, heureusement, c'est pas terminé, heureusement, le cœur miséricordieux de Jésus regarde non tant à nos actes qu'à nos intentions et au fond de notre volonté que sa grâce maintient unie à lui. Plus l'union grandit, plus nos misères nous sont dévoilés, nous sommes ténèbres, et plus nous nous approchons de Jésus qui est la vraie lumière, plus nous voyons clairement nos plaies et nos innombrables imperfections. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et pour montrer que la bienheureuse Marie de Jésus est pétrie de l'Évangile, nous avons l'exemple qui correspond à ce passage que vous connaissez très très bien, c'est justement l'exemple de la femme adultère, c'est-à-dire Marie-Madeleine. Dans l'Évangile, de Saint Jean dans l'évangile de Saint Jean au chapitre que je vais vous dire, chapitre 8, verset 1. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers, mais dès l'aurore, de nouveau il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il enseignait. Or les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Et il fut laissé seul avec la femme toujours là au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Alors, ce passage est pour nous très important pour comprendre et illustrer cette deuxième partie de cette lettre de la Bienheureuse Marie de Jésus. Pourquoi ? Parce que, comme elle nous le fait comprendre, Jésus, il regarde moins à nos actes, même s'il regarde nos actes, parce qu'il y a des actes qui sont bons et des actes qui sont mauvais. Donc il regarde tous nos actes. Mais Jésus, il regarde moins à nos actes qu'à au fond de notre volonté. Au fond de notre volonté. C'est-à-dire, est-ce que au fond de notre âme, nous sommes liés à Jésus ou pas? Et vous l'avez vu, elle le dit en plus. Plus l'union grandit, que nos actes soient plus ou moins bons, mais plus nos misères sont dévoilées. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette sainte femme. Elle n'est pas sainte parce qu'elle aurait fait quelque chose de bien, puisque c'est au contraire, elle a fait quelque chose de très très mal. Très mal. Très 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 mal. Un péché mortel. Mais sa volonté, elle est tournée vers Jésus. Et elle n'est pas du coup détournée de Jésus. Et Jésus, c'est ce qui regarde. Parce que quand la volonté lui est acquise, avec Dieu, tout est possible. C'est lui qui le dit à la Vierge Marie. Car rien n'est impossible à Dieu. Et du coup, comme rien n'est impossible à Dieu, il va se passer avec cette femme pécheresse ce qui se passe à chaque fois que nous aussi, nous sommes capables de reconnaître, comme le dit la Bienheureuse Marie de Jésus, que nous sommes du coup misérables. Plus l'union grandit, plus nos misères nous sont dévoilées. Et au fur et à mesure que cette femme s'approche de Jésus, ses misères du coup se dévoilent. Et c'est pareil avec Zachée. Et c'est pas pareil avec le jeune homme riche, c'est le contraire. Parce qu'il est habité par les vices. Nous avons encore un autre exemple de l'attachement de Dieu et de Jésus à notre volonté. À notre volonté. La volonté, du coup, profonde. Elle disait, dans la première partie, elle parlait de bonne volonté. Là, elle parle de volonté, qui est bonne. C'est l'exemple que vous connaissez tous du jeune homme, de la parabole enfant prodigue. Toujours chez Saint Luc, au chapitre 15. Vous rappelez que du coup le jeune homme prend l'argent de son héritage, il dépense tout, Et à un moment où il est avec les cochons et où les cochons sont mieux traités que lui, le texte de Saint-Luc dit ceci, il rentra en lui-même et se dit. Il rentra en lui-même et se dit. Eh bien, le fait de rentrer en soi-même et de se dire, c'est ce travail de ma conscience et de ma volonté. Est-ce que, comme membre de la garde d'honneur, j'ai ce souci, tous les soirs avant de me coucher, d'avoir la volonté. Ceux qui le regardent, ce n'est non tant nos actes et nos intentions que notre volonté. Est-ce que j'ai cette volonté de rentrer en moi-même et de me dire, voilà, dans la journée, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Et si vous rappelez la parabole enfant prodigue, il y a un détail qui nous montre le moteur de tout ce que vit le jeune homme, l'enfant cadet. Le détail, c'est lorsque Saint-Luc nous rapporte dans la parabole de Jésus que le papa, tous les jours, sortait et scrutait l'horizon. Parce qu'au fond de son cœur de papa, dont est porteur Jésus porte le cœur de son père, hein. Il nous présente le cœur de son père. Au fond de son cœur, il sait que son fils va revenir. Et au fond de son cœur, il le désire. Et le fait de le désirer, parce que c'est le papa dans la parabole, c'est Dieu, hein, et l'enfant prodigue, c'est vous et moi. Et au fond de son cœur, en désirant son fils, il aspire, il attire. Et c'est au moment où le cadet rentre en lui-même et se dit ça, que tac, l'aspiration amoureuse de son père et sa volonté, plus l'union grandit, plus nos misères sont dévoilées. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je vais retourner vers mon père, je vais tomber à genoux devant lui et je lui dirai, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton enfant. Plus l'union grandit, plus nos misères sont dévoilées. Troisième partie. Plus l'union à la sainteté deviendra étroite, plus le contraste avec notre immense misère, avec notre néant pécheur, nous apparaîtra grand. Mais si nous sommes bien humbles, Jésus couvrira tout du manteau de son sang, de ses mérites, de ses miséricordes, et un jour au ciel du manteau de sa gloire. Retenez bien, mais si nous sommes bien humbles, Jésus couvrira tout du manteau de son sang, de ses mérites, de ses miséricordes, et un jour au ciel, du manteau de sa gloire. Et là, nous avons un nouveau combat à vivre. Nous avons vu au début que nous avons un combat à vivre pour être comme Zachée et pas comme le jeune homme riche. Nous avons vu après que nous avons un combat à vivre pour que notre volonté soit toujours en recherche de cette union plus grande avec Dieu, de sorte que on voit notre vie misérable. Et là, nous avons un nouveau pas, un nouveau élément de combat. Et cet élément de combat, dans l'Évangile, il est très grave. Il n'est pas grave, il est très grave. Parce qu'il est illustré par le roi Hérode. Donc deux références, la première et la deuxième. La première, c'est dans l'Évangile de Saint-Luc, au chapitre 9. Verset 7, Luc 9, 17. Hérode, le tétrarque, apprit tout ce qui se passait, et il était fort perplexe, car certains disaient « C'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts », certains « C'est Élie qui est reparu », d'autres « C'est un des anciens prophètes qui est ressuscité ». Mais Hérode dit « Jean, moi je l'ai fait décapiter, quel est-il donc celui dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Ce passage est très grave du fait que l'homme dont il est question, c'est pas n'importe qui. C'est le roi Hérode. Autrement dit, c'est celui qui succède à toute la lignée des rois depuis Saül jusqu'à l'époque de Jésus. Or, si vous rappelez votre catéchisme, vous rappelez que les rois en Israël n'ont rien à voir avec les rois du monde, ou comme la venue du roi Charles III à Paris, que c'était du cinéma qui a coûté très très cher au porte-monnaie des Français. Ça n'a rien à voir. Dans la Bible, le roi est toujours le lieutenant de Dieu. Toujours. Il tient lieu. Lieutenant, ça veut dire ça. Un lieutenant, c'est un lieutenant. Celui qui tient lieu de. Un lieutenant dans l'armée, c'est celui qui tient lieu du commandant. Eh bien, en Israël, le roi, c'est le lieutenant de Dieu. Et donc, ce qui veut dire que ses prises de position, l'utilisation de sa volonté, peut soit amener ce vers qui il est le lieutenant, c'est-à-dire le peuple de Dieu, à sa perte ou à son salut. Par exemple, votre zélatrice, c'est votre lieutenant de Dieu. Notre mère, c'est notre lieutenant de Dieu dans la communauté. Moi, comme curé de la paroisse de Saint-Victor à Marseille, je suis le lieutenant de Dieu. Et selon mes prises de position et mes décisions, ou j'emporte la communauté dans un sens, ou j'emporte la communauté dans un autre sens. En tant que papa et maman, si vous êtes papa et maman, vous êtes les lieutenants de Dieu. Et selon ce que vous décidez dans le couple et dans la famille, vous menez vos enfants à leur perte, vous menez les orphans, vos enfants à leur édification. Nous avons tous, une mission de lieutenant de Dieu. Et la Mère Marie de Jésus, c'est ce qu'elle veut faire comprendre à ses jeunes sœurs novices. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous sommes les lieutenants de Dieu. Et nous ne devons pas être comme le roi Hérode. Pourquoi ? Vous l'avez entendu, il cherchait à le voir, mais le jeune homme riche aussi cherchait à voir Jésus. Et pour quel résultat ? D'autant que nous avons un parallèle, non seulement dans l'évangile de Saint-Luc, mais dans les synoptiques, c'est-à-dire chez Matthieu et chez Marc. Rappelez-vous, on l'a lu il n'y a pas longtemps, si vous allez à la messe tous les jours, on l'a lu il n'y a pas longtemps. Vous savez, quand Jésus il prend les apôtres à part, il leur dit « Que dit-on de moi ?» Vous vous rappelez, quand Jésus pose la question « Que dit-on de moi ?» Et que répondent les apôtres ? Exactement ce qu'on dit au roi Hérode. Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour les autres, tu es Élie, pour un autre, tu es la réincarnation d'un prophète. Et regardez maintenant le pendant. Tandis que Jésus, parce que les apôtres, ils cherchent Jésus, ils ne se contentent pas de dire « je veux voir Jésus ». Ils le cherchent. Et du coup, Jésus dit « mais pour vous, qui suis-je ?» Alors que là, Hérode, il passe de ce qu'on raconte de Jésus à ce que lui pense de Jésus. Et quand vous regardez ce que Saint Pierre pense de Jésus quand Jésus pose la question, et ce qu'Hérode pense de Jésus quand on lui parle de Jésus, il n'y a pas photo. Saint Pierre, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Et Hérode, Jean, moi je l'ai fait décapiter, quel est-il donc celui dont j'entends dire de telles choses? Mais tu te lèves, tu suis Jésus comme un disciple et tu auras la réponse. Tu ne restes pas tranquille dans ton droit de roi pour faire, du coup, dire, ben, c'est à lui à venir à moi. C'est à moi à aller vers Jésus. D'où l'importance du deuxième passage, toujours chez Saint-Luc, et toujours autour d'Hérode. C'est au moment de la passion de Jésus. Et nous avons ça au chapitre 23, verset 8. Chapitre 23, verset 8. Hérode, en voyant Jésus, fut tout joyeux. Retenez bien, il est tout joyeux. Mais est-ce que c'est la joie du jeune homme riche ou est-ce que c'est la joie de Zachée? Car depuis assez longtemps, il désirait le voir. Vous rappelez? C'était le chapitre 9. Pour ce qu'il entendit dire de lui, il espérait lui voir faire quelques miracles. Est-ce que Zachée s'approchait de Jésus pour lui voir faire quelques miracles? Est-ce que Saint-Pierre se prononce face à Jésus pour lui faire voir quelques miracles? Est-ce que la pécheresse s'approche de Jésus pour le voir faire quelques miracles? Pourquoi je m'approche de Jésus? Pourquoi je cherche Jésus? Il interrogea donc avec force parole, mais lui, il ne répondait rien. Alors que Jésus répond, jeune homme riche, alors que Jésus répond à Saint-Pierre, alors que Jésus répond à Zachée, alors que Jésus répond à la pécheresse, il ne répond rien. Parce que le premier point n'est pas en place, parce que le deuxième point n'est pas en place, et du coup le troisième point ne peut pas être en place. Et Jésus, il se tait. C'est pour ça que quand, j'espère que vous n'êtes pas de ces gardes d'honneur comme ça, hein, quand j'ai des paroissiens qui disent « Mon père, je m'adresse, je parle à Jésus, ne me réponds pas. » Moi je pense à ça, je dis « Oulala, s'il ne te répond pas, tu devrais te poser des questions. Hein. » Parce que Zachée il répond, je ne me richirai pas, tout le monde répond. Moi il me répond Jésus, hein. Et quand il ne me répond pas, je vais vite me confesser. Hein. Là il me répond. Hein. C'est l'absolution que me donne le prêtre. Mais là, il ne répond pas. Muet. Cependant, les grands prêtres et les scribes se tenaient là, l'accusant avec véhémence. Écoutez bien la suite. C'est la mère Marie de Jésus. Après l'avoir ainsi que ses gardes traité avec mépris et bafoué, Hérode le revêtit d'un habit splendide et le renvoya à Pilate. Et ce même jour, Hérode et Pilate devinrent deux amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. La puissance de l'amitié dans le mal qui pousse à revêtir Jésus du manteau de son sang. Eh bien, être membre de la garde d'honneur, dit la Mère Marie de Jésus à ses jeunes novices, consiste à prendre ce manteau d'Hérode. C'est moi qui le dis, c'est elle. Mais si nous sommes bien humbles, Jésus couvrira tout du manteau de son sang, de ses mérites et de ses miséricordes. Il accepte cette humiliation par réparation. Gloire, amour, réparation. C'est là qu'a lieu le combat spirituel pour que, comme Jésus, nous prenions le manteau de sang. Le sang. Pour que justement nous travaillions à cette réparation de toutes les mauvaises volontés, de toutes ces non-volontés, et de ces endurcissements et de ces indifférences contre Dieu et contre Jésus. Comme dans ce passage. Traité avec mépris et bafou. Enfin, dernier, quatrième partie, confiance, un peu de sacrifice, une éternité de bonheur, un peu d'union douloureuse à Jésus victime, une éternité d'union ineffable à Jésus glorieux et triomphant. C'est pour nous qu'il a souffert. Oserions-nous l'aimer et ne pas vouloir de ses souffrances? Voudrions-nous le suivre à la joie sans l'avoir suivi à la douleur? L'amour ne pourrait souffrir un pareil choix. Et puis, l'amour qui veut l'union ne peut supporter les obstacles. Ces obstacles sont le misérable moi, la nature, l'amour propre, l'esprit propre, etc. Sacrifions tout, détruisons tout, écartons tout ce qui gêne l'union intime de nos âmes avec Jésus. Il en coûte, mais il en coûte encore plus de sentir un mur entre le bien-aimé et nos pauvres âmes, plus rien que Jésus. Dans ce passage, quatrième partie, avant la conclusion, nous avons un passage que vous connaissez aussi, qu'on va lire, c'est justement après la profession de foi de saint Pierre. Pour cela, nous allons dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16. Matthieu 16. 16, 21, verset 21. Matthieu 16, 21. Jean-Hugues, n'oubliez pas les charbons, hein. Et oui, parce que Jean-Hugues, c'est, il veille, hein. Vous avez la chance d'avoir Jean-Hugues ici, hein. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tyran à lui, se mit à le morigéner en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point ». Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle. L'amour qui veut l'union ne peut supporter les obstacles. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi? Plus rien que Jésus. Qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, il en est ici présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. » Dans ce passage que je viens de vous lire, illustre parfaitement notre quatrième partie. Jésus ne nous propose, et la mère Marie de Jésus ne propose à ses jeunes novices, et nous propose par la garde d'honneur, à travers la première garde d'honneur, que un seul chemin. Un seul chemin. Le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Le chemin du Golgotha. C'est pour cela que sur les médailles que vous allez recevoir, les deux nouvelles membres de la garde d'honneur, elles représentent la Vierge Marie, Saint Jean et Marie-Madeleine au sommet du Golgotha. Un membre de la garde d'honneur qui refuse de vivre le chemin de croix n'est pas digne d'être membre de la garde d'honneur. Un membre de la garde d'honneur qui ne veut pas s'épuiser à gravir avec tout ce qu'il y a de pénible, de difficile, le Golgotha ne peut pas être membre de la garde d'honneur. C'est pour cela que la bienheureuse Marie de Jésus nous le dit, un peu de sacrifice, une éternité de bonheur. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi, en prenant sa croix, en gravissant le Golgotha, la sauvera, la sauvera. L'enjeu, nous le savons, c'est le débordement de cette miséricorde dont il nous dit. L'amour ne peut souffrir de choisir la tranquillité, la facilité. Jésus, son amour, il est absolu. Et on ne peut pas vivre autrement que de l'absolu de Jésus. Mais c'est pour cela que pour y arriver, il faut le paragraphe 1, le paragraphe 2, le paragraphe 3. Si j'avais commencé directement par le paragraphe 4, on dit « mais on ne peut pas ». Et non, on ne peut pas. Mais si on commence avec le 1, le 2 et le 3, on comprend le 4. Et on comprend que être chrétien, être membre de la garde d'honneur, être une religieuse de la visitation, être prêtre, c'est de ne pas supporter qu'il y ait un mur entre Jésus et moi. On ne peut pas supporter. On ne peut pas. Et c'est exactement ce qu'elle dit. Et c'est pour cela que Jésus, il est très dur avec Saint-Pierre. Parce que il veut dresser le mur de sa certitude à lui, comme Hérode, comme le jeune homme riche. Il veut dresser le mur de sa tranquillité, comme le jeune homme riche. Et Jésus ne peut pas accepter ça. Alors que c'est Saint-Pierre, hein. C'est Saint-Pierre. Et ce n'est pas la première fois que Saint-Pierre fanfaronnera comme ça. Vous vous rappelez, le jeudi saint, il va fanfaronner. Mais non, il ne va pas t'arriver. Moi, je te suivrai jusqu'au bout s'il faut. Hein. Non, moi, jusqu'au bout, je te défendrai. Puis vous savez la suite. Non seulement il ne le défend pas à Gethsémani, mais après, dans la cour du temple, trois fois, il le renie. Donc, il est très important, mes chers amis, de comprendre que la mère Marie de Jésus, lorsqu'elle parle ainsi à ses novices, elle veut faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de la croix, hein, qui est le chemin à la fois de douleur, comme elle dit, mais qui est le chemin du coup de la béatitude, du bonheur qui est pas factice, du bonheur qui n'est pas d'apparence. Vous savez qu'en italien, je suis d'origine italienne, hein, en italien, le maquillage, vous savez que vous mettez mesdames, vous maquillez là tout le matin. Maintenant, il y a les hommes, ils se maquillent, quoi, ils se mettent plein de pommades sur la peau. En italien, ça se dit trucco. Trucco. Et trucco en italien, en français, pardon, ça a fait le français trucage. Vous savez, quand une réalité est truquée, quand un jeu est truqué, c'est-à-dire que c'est faux. Eh bien, leur bonheur, c'est le trucco, un trucage. Alors que Jésus, il nous appelle à un bonheur vrai, un bonheur authentique. Un bonheur naturel. Mais qui passe par les sacrifices. Le sacrifice qui garantit que l'amour, la vie sont plus forts que la mort et la haine. D'où la conclusion, dernier paragraphe, qui vous fasse cette grâce, demandez-la pour moi, amour à notre Mère du Ciel, portez-lui mon cœur et dites-lui combien je l'aime, menez mon âme partout avec la vôtre. Ah, vous avez fait tomber une médaille, Jean-Luc. Et oui, c'est pas bien, hein. Mais ça va, on vous en veut pas. Et donc, du coup, ce qui est très important, c'est que la Mère Marie de Jésus introduit ses jeunes sœurs novices dans la communion des saints. Vous l'avez entendu, la communion des saints, elle est à la fois verticale et horizontale. Elle a le signe de la croix, verticale et horizontale. C'est pour ça qu'il faut sortir d'une conception de la communion des saints qui consisterait à s'adresser qu'au ciel. Et il faut s'adresser au ciel, hein. La Vierge Marie, le Sacré-Cœur, Saint Antoine, Saint François de Sales, Sainte Jeanne Chantal, tous les saints, il faut s'adresser à eux. Mais la communion des saints commence aussi ici-bas entre nous. C'est ce qu'elle dit, « Menez mon âme partout avec la vôtre ». Vous voyez, je vais vous donner un exemple concret que je n'avais jamais réalisé. Et que j'avais pas compris. Et je l'ai compris samedi dernier à 16h quand le pape est venu célébrer la messe dans le stade Vélodrome de Marseille. À la fin, comme il le fait tout le temps, à la fin, il dit en français « Priez pour moi, c'est très difficile mon métier ». Comme ça il a dit « Priez pour moi ». Mon métier est difficile. Et comme j'étais sous cérémonière, du coup j'étais dans le cœur, j'étais à côté du pape, hein, et du coup c'est la première fois que je le vois dire ça. Et il a dit ça, au moment où il a dit, c'est mon imagination, hein. Mais à Marseille on aime beaucoup imaginer. Hein. Et au moment où il a dit ça, j'ai compris qu'il nous appelait à la communion des saints. Que ce n'était pas uniquement dire le « prier pour moi » comme moi, malheureusement, je le dis « prier pour moi, hein, prier pour moi hein. ». Surtout quand je veux couper court à une conversation, je dis « allez, à bientôt, priez pour moi hein, ». Priez. Non, il ne disait pas ça pour couper court. Parce qu'il était convaincu que c'est ça qui le porte. De savoir qu'on prie pour lui, et pas uniquement parce qu'on cite son nom au canon, comme le nom de l'évêque, Monseigneur Laurent, ou moi à Marseille, Monseigneur Jean-Marc. Pas du tout. Parce qu'il sait que nous sommes encordés les uns aux autres. Et que si on n'a pas conscience qu'on est encordés les uns aux autres, eh bien du coup, ça ne sert à rien tout ça. Et que ce n'est pas la peine de se tourner vers là-haut si on ne se tourne pas les uns vers les autres pour s'aider, s'entraider. Et c'est ça la communion des saints. Et c'est ce qu'elle demande. Menez mon âme partout avec la vôtre. Alors qu'on pourrait dire, c'est elle la mère supérieure, du coup ce serait plutôt aux novices à dire, ah non, ma mère, portez mon âme avec la vôtre. Pas du tout. C'est la mère qui dit aux novices, portez mon âme avec la vôtre. La puissance de la communion des saints. Voilà. Donc, je crois que vous avez eu un petit, une petite approche de l'importance du combat spirituel chez la bienheureuse Marie de Jésus dans le cadre de la garde d'honneur. Allez, on se met debout et on redit « Un je vous salue Marie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue.